Troisième partie. Chapitre 31. J'ouvris les yeux et regrettai aussitôt d'avoir été réveillé. Roulant sur le côté, plissant les yeux, pestant contre la soudaine invasion de lumière, je vis Leg Hunt assis au bord du lit, la seringue à instillation encore à la main.
« Vous avez pris assez de pilules pour vous faire dormir toute la journée, » me dit-il. « Debout et haut les cœurs !»
Je m'assis au bord du lit, massai ma barbe du matin sur mes joues et jetai un regard de travers à Hunt.
« Qui vous a donné le foutu droit d'entrer dans ma chambre ?» demandai-je.
L'effort me fit tousser et cela ne cessa que lorsque Hunt revint de la salle de bain avec un verre d'eau.
« Buvez ça, » me dit-il.
Je bus, tout en essayant vainement de projeter ma colère entre deux quintes. Les vestiges de mon rêve étaient en train de se diluer comme la brume du matin. Je me sentis gagné par un terrible sentiment de perte.
« Habillez-vous !» me dit Hunt en se levant. « La présidente veut vous voir dans ses appartements privés dans 20 minutes. Beaucoup de choses se sont produites pendant votre sommeil. »«
Quelles choses ?» Je me frottais les yeux et passais la main dans mes cheveux ébouriffés.
« Renseignez-vous auprès de l'infosphère !» me dit Hunt en souriant. « Et n'oubliez pas, 20 minutes, pas une de plus, Severn !»
ajouta-t-il en sortant. Je fis ce qu'il m'avait conseillé. L'accès à l'infosphère ressemble un peu à la descente sur un océan à la surface diversement agitée. En temps normal, la houle est légère et n'offre pas beaucoup de résistance. Les jours de crise, il y a des moutons et quelques lames de fond. Aujourd'hui, c'était un véritable ouragan qui se déchaînait. Il fallait avancer à contre-courant, et la confusion la plus totale régnait sur les deux grandes voies d'accès aux données. La matrice de l'infoplan était surchargée de demandes de transfert. L'assemblée de la Pangermie, qui n'émettait normalement qu'un bourdonnement multiplexe d'informations et de débats politiques, était en proie à un vent de panique. Les votes interrompus et les rapports de situation caduques s'effilochaient comme des nuages chassés par la tempête.
« Mon Dieu !» murmurai-je.
Je voulus me retirer, mais la pression de toutes ces informations pesait sur mes circuits d'implant et sur mon cerveau. Guerre, attaque surprise, destruction imminente du Retz, rumeur de déposition de la présidente Gladstone, émeute sur une vingtaine de mondes. Manifestation violente des fidèles du Gritch sur l'Usus. La flotte de la Force abandonne le système d'Hyperion dans une tentative de repli désespéré, mais c'est déjà trop tard, beaucoup trop tard. Hyperion est déjà attaqué. On craint une invasion par les canaux d'Istrans. Je me levai, courus prendre ma douche et mes soniques en un temps record. Hunt ou bien quelqu'un d'autre avait disposé sur le dossier d'une chaise un complet gris et une cape. Je m'habillai à toute vitesse, me brossais les cheveux sans les sécher, de sorte que mes boucles mouillées tombaient sur mon col. Il ne fallait surtout pas faire attendre la présidente de l'hégémonie humaine. Surtout pas.
« Il était temps que vous arriviez !»
me dit Mayna Gladstone lorsque j'entrais dans ses appartements privés.
« Qu'est-ce que c'est que ce bordel que vous avez foutu ?» lui demandai-je.
Elle battit 3 fois des paupières. De toute évidence, la présidente de l'hégémonie humaine n'avait pas l'habitude qu'on s'adresse à elle sur ce ton.
« Putain de merde !»
ajoutai-je en mon fort intérieur.
« N'oubliez pas qui vous êtes et à qui vous parlez !»
me dit Gladstone d'une voix glacée.
« J'ignore qui je suis, et je suis peut-être en train de parler à la plus grande criminelle de toute l'histoire depuis Horace Glennon Height. Pourquoi avez-vous laissé éclater cette fichue guerre ?»
Elle battit de nouveau des paupières et regarda autour d'elle. Nous étions seuls. Le salon était vaste et la pénombre agréable. Il y avait au mur des toiles de l'ancienne terre, mais je m'en fichais pas mal sur le moment, même si c'était des Van Gogh originaux. Je dévisageais la présidente. Son visage réputé lincolnien n'était que celui d'une vieille femme qu'éclairait la lumière parcimonieusement filtrée par les stores. Elle soutint mon regard quelques instants, puis détourna la tête.
« Excusez-moi, »
lui dis-je sèchement sur un ton qui démentait mes paroles.
« Mais vous n'avez pas laissé éclater la guerre. Vous l'avez fait éclater, n'est-ce pas ?»«
Non, Severn. Je ne l'ai pas provoqué.
sa voix était aussi faible qu'un chuchotement. « Expliquez-vous, » insistai-je en faisant les 100 pas devant la haute fenêtre dont les stores dessinaient sur mes vêtements des bandes horizontales de lumière. « Et sachez que je ne suis pas Joseph Severne. » Elle haussa un sourcil.
« Dois-je vous appeler Ashkitz ?»«
Vous pouvez m'appeler personne. » De sorte que lorsque les autres cyclopes viendront et vous demanderont qui vous a aveuglé, vous pourrez répondre « Personne !» et ils s'en iront en disant que c'était la volonté des dieux.
Vous avez l'intention de m'aveugler ?
Je pourrais vous tordre le cou et m'en aller d'ici sans le moindre remords. Des millions d'êtres vont périr avant que cette semaine ne se termine. Comment avez-vous pu accepter cela ? Elle posa un doigt sur sa lèvre inférieure.
« L'avenir ne bifurque que dans deux directions, »
dit-elle d'une voix très douce.
« La guerre, avec incertitude totale, ou bien la paix, avec annihilation totale certaine. J'ai choisi la guerre. »«
Et qui a décrété ces choses ? » demandai-je avec maintenant plus de curiosité que de colère dans la voix.
« Ce sont des faits, »
répliqua-t-elle en consultant son persoc.
« Dans 10 minutes, il faut que j'aille prononcer la déclaration de guerre devant le Sénat. Donnez-moi des nouvelles des pèlerins d'Hyperion. »
Je croisai les bras et la regardai dans les yeux. « Je le ferai si vous me promettez de faire une chose. »«
Si c'est en mon pouvoir, je le ferai. »
J'attendis un instant, comprenant que rien dans l'univers ne pouvait obliger cette femme à engager sa parole sur un chèque en blanc. « Très bien, » déclarai-je. Je veux que vous communiquiez par Mégatrans avec Hyperion pour lever l'interdiction de décollage sur le vaisseau du consul. Il faut également envoyer quelqu'un en amont du fleuve Ouli pour le retrouver. Le consul se trouve approximativement à 130 km de la capitale, un peu plus haut que les écluses de Carla. Il est peut-être blessé. Gladstone se frotta la lèvre d'un doigt replié, puis hocha la tête.
Très bien. J'enverrai quelqu'un à sa recherche.
Quant à libérer le vaisseau, cela dépend de ce que vous allez m'apprendre. Les autres sont-ils encore en vie ?
Je resserrai ma cape autour de moi et me laissai tomber sur un sofa en face d'elle. Certains le sont.
La fille de Byron Lamia, Brown.
Le Gritch l'a emportée. Elle est restée quelque temps dans une sorte de coma relié à une espèce de dérivation neurale de l'infosphère. J'ai rêvé qu'elle flottait quelque part unie à la personnalité sur un plan du premier Kitz. Elle pénétrait dans l'infosphère, la mégasphère plutôt. Elle accédait au technocentre par des voies et des dimensions dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence.
« Est-elle actuellement en vie ?»
demanda Gladstone en se penchant en avant. « Je l'ignore. Son corps a disparu. On m'a réveillé avant que je ne puisse voir par où sa personnalité entrait dans la mégasphère. »
« Et le colonel ?»
demanda Gladstone en hochant lentement la tête. « Cassad a été conduit quelque part par Moneta, cette fille qui semble résider dans les tombeaux et voyager dans le temps avec eux. La dernière fois que j'ai vu le colonel, il attaquait le Gritch à main nue. Les Gritch, plutôt. Il y en avait des milliers.
« A-t-il survécu ?»
J'écartai les bras. « Je l'ignore. Ce ne sont que des rêves, des fragments de perception. »
Et le poète ?
Le Gritch l'a pris. Il l'a empalé sur l'arbre aux épines. Je l'ai revu plus tard lorsque j'ai rêvé de Cassad. Silénus était toujours vivant. J'ignore par quel miracle.
L'arbre aux épines est donc une réalité. Ce n'est pas une invention de l'église Gritchtek.
Il existe vraiment.
Le consul est donc parti. Il essaie de rejoindre la capitale ?
Il a le tapis au king de sa grand-mère Siri. L'engin a très bien fonctionné jusqu'à cet endroit dont je vous ai parlé, près des écluses de Carla. Mais il est tombé dans le fleuve. Je ne sais pas s'il est encore vivant, me hâtai-je d'ajouter, anticipant sa question.
Parlez-moi du prêtre, le père Hoyt.
Le cruciforme l'a ressuscité en tant que père Duré.
C'est vraiment le père Duré ou une copie sans cervelle ?
C'est Duré, mais il est diminué, très déprimé.
Il est toujours dans la vallée ?
Non, il a disparu dans l'un des trois caveaux. J'ignore ce qu'il est devenu. Gladstone consulta son persoc. J'essayais d'imaginer la confusion et le chaos qui régnait dans le reste du bâtiment. Du monde. Du Reds tout entier. De toute évidence, la présidente avait voulu se réfugier ici un quart d'heure avant d'affronter le Sénat. C'était peut-être le dernier moment de tranquillité relative qu'elle connaîtrait durant des semaines, ou pour toujours.
Et le commandant Mastine,
mort, enterré dans la vallée. Elle prit une profonde inspiration.
Et Weintraub? Son enfant?
Je secouai la tête. Je n'ai pas rêvé les choses dans l'ordre chronologique. Il y a eu un décalage. Je crois que c'est ce qui s'est passé, mais je ne sais plus très bien où j'en suis. Je regardais Gladstone. Elle attendait patiemment que je continue. Le bébé n'était plus âgé que de quelques secondes lorsque le Gritch est apparu, poursuivis-je. Sol a donné sa fille au monstre. Je crois qu'il l'a emporté à l'intérieur du sphinx. Les tombeaux étaient brillamment éclairés de l'intérieur. Partout, il y avait d'autres Gritch qui en sortaient.
Les tombeaux se sont donc ouverts.
Oui. Gladstone manipula son persoc.
Leg, faites contacter Theo Lane et les responsables de la force sur Hyperion. Qu'on lève la quarantaine sur le vaisseau du consul. Dites au gouverneur général que je lui transmettrai un message personnel dans quelques minutes.
L'instrument émit un grésillement. La présidente se tourna de nouveau vers moi.
Il n'y avait rien d'autre dans vos rêves?
Des images, des mots. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je vous ai dit le principal. Elle eut un petit sourire.
Savez-vous que vos rêves ont une portée qui dépasse de beaucoup celle des autres projets d'expérience de récupération de la personnalité Keats?
Je ne répondis pas, frappé de plein fouet par ce qu'elle venait de dire. Mes contacts avec les pèlerins avaient été rendus possibles par l'existence d'une connexion au niveau du technocentre avec l'implant de personnalité contenu dans la boucle de Schrön de Braun et avec l'infosphère rudimentaire ainsi créée. Mais la personnalité avait été libérée et l'infosphère avait été détruite par la séparation et la distance. Même un récepteur mégatrans est incapable de recevoir un message quand il n'y a plus d'émetteur. Le sourire de Gladstone disparut abruptement.
« Comment expliquez-vous cela ? »
demanda-t-elle. « Je ne l'explique pas, » répondis-je en la regardant dans les yeux. « Ce n'était peut-être que des rêves, de vrais rêves. » Elle se leva.
Nous saurons peut-être la vérité quand nous aurons éventuellement retrouvé le consul, ou quand son vaisseau arrivera dans la vallée. Il me reste 2 minutes avant de me présenter devant le Sénat. Vous n'avez rien d'autre à me dire?
Juste une question. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Elle sourit de nouveau.
Nous nous posons tous les mêmes questions, Ashkitz.
Je suis sérieux. J'ai l'impression que vous connaissez mieux que moi la réponse.
Le centre vous a envoyé pour que vous me serviez de liaison avec les pèlerins, et pour observer. Vous êtes, après tout, un poète et un artiste.
J'émis un grognement indistinct et me levai à mon tour. Nous nous dirigeâmes lentement vers la porte d'Istrance privée qui la conduirait directement au Sénat. À quoi peut servir un observateur lorsque la fin du monde est là? Demandai-je.
À vous de le découvrir. Allez assister à la fin du monde.
Elle me tendit une microcarte pour mon persoc. Je l'insérai dans le lecteur et lus ce qui s'affichait sur l'écran. Il s'agissait d'une plaque universelle donnant accès à tous les terminaux d'Istrance, publics, privés ou militaires. Un pass pour la fin du monde. Et si je me fais tuer? Demandai-je.
Dans ce cas, nous ne connaîtrons jamais les réponses à vos questions.
La présidente me toucha légèrement le poignet, me tourna le dos et s'avança à travers la porte d'Istrance. Je demeurai quelques minutes de plus dans ses appartements, appréciant la pénombre, le silence et le décor artistique. Il y avait bien un Van Gogh accroché au mur. Il devait valoir plus que ce que la plupart des planètes du Retz auraient pu payer. C'était une peinture de la chambre de l'artiste en Arles. La folie n'est pas une invention récente. Au bout d'un moment, je sortis à mon tour, laissant la mémoire de mon persoc me guider à travers le labyrinthe de la maison du gouvernement jusqu'au terminex d'Istrance centrale. Je m'apprêtais alors à partir découvrir la fin du monde. Il y avait dans le Retz 2 itinéraires d'Istrance à accès total. celui du quartier marchand et celui du fleuve Tétis. Je me distransportais dans le quartier marchand où l'esplanade de 500 mètres de Tsingtao Hiswangpana était reliée à la Nouvelle Terre et au court front de mer de Nevermore. Tsingtao Hiswangpana se trouvait dans la zone de la première vague d'invasion, à 34 heures des extros. La Nouvelle Terre faisait partie de la deuxième liste, encore en cours d'élaboration, et disposait d'un peu plus d'une semaine standard avant l'invasion. Nevermore était loin dans les profondeurs du Retz, à des années de distance de toute attaque. Je ne voyais aucun signe de panique. Les gens se tournaient vers l'infosphère et la pangermie plutôt que de descendre dans les rues. Parcourant les étroites vallées de Tsingtao, j'entendis la voix de Gladstone, diffusée par des milliers de récepteurs et de persocs, étrange fond sonore aux cris des marchands ambulants et au crissement des pneus sur les pavés mouillés tandis que les pousse-pousses électriques bourdonnaient au-dessus dans les niveaux de transport.
Comme l'a dit un autre dirigeant à son peuple la veille d'un combat, il y a plus de 8 siècles, « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Vous me demandez quelle sera notre politique. Je vous réponds, faire la guerre dans l'espace, sur terre, sur mer. Faire la guerre de toutes nos forces et avec toute l'énergie que pourront nous donner la justice et le bon droit. Voilà quelle sera notre politique. »
Il y avait des troupes de la force stationnées près de la zone de transport entre Tsingtao et Nevermore. Mais le flot des piétons semblait tout à fait normal. Je me demandais à quel moment les militaires allaient réquisitionner la voie pour piétons du quartier marchand pour leurs véhicules et si ces derniers prendraient la direction du front ou la direction opposée. Je passais sur Nevermore. Ici, les rues étaient sèches, à l'exception de quelques embruns qui montaient de l'océan, situés à 30 mètres au-dessous des remparts de pierre du quartier marchand. Le ciel avait sa coloration habituelle à l'aspect menaçant, ocre et gris, et le crépuscule en plein jour créait une impression sinistre. De petites boutiques de pierre regorgeant de marchandises étaient faiblement éclairées de l'intérieur. Les rues étaient beaucoup moins fréquentées que d'habitude. Les gens étaient par groupes devant les magasins ou assis sur des bancs de pierre ou des murets à l'extérieur, la tête baissée, écoutant le discours d'un air hagard.
« Vous demandez quel est notre objectif ? Je vous réponds en un seul mot. La victoire. La victoire à n'importe quel prix. La victoire malgré toute la terreur, malgré la longueur et les difficultés de la route. Car sans victoire, il n'est point de survie. »
Les lignes au terminex principal d'Edgartown étaient peu nombreuses. Je programmais Mare Infinitus comme point de destination et franchis la porte. Le ciel sans nuages avait sa couleur verte habituelle. Sous la cité flottante, l'océan était d'un vert plus foncé. Les exploitations de varech flottaient à l'horizon. La foule, ici non plus, n'était pas nombreuse, malgré la distance par rapport au quartier marchand. Les esplanades semblaient presque désertes. Quelques boutiques étaient fermées. Un groupe d'hommes se tenait près d'un ponton, écoutant un vieux récepteur mégatrans. La voix de Gladstone résonnait, métallique, dans la riche atmosphère océanique.
En ce moment même, de vaillantes unités de la force font route vers leurs différents postes, résolues à protéger non seulement les mondes menacés, mais également toutes les planètes de l'hégémonie, de la plus vile et de la plus abjecte tyrannie qui ait jamais souillé les annales de l'histoire.
Mare Infinitus se trouvait à 18 heures de l'invasion. Je levai les yeux vers le ciel, m'attendant presque à voir déjà un signe de présence de l'essaim ennemi, ou des indications de mouvement de troupes, ou encore de mise en place de défense orbitale. Mais il n'y avait que le ciel à voir. La journée était chaude, et la cité flottante était doucement bercée par les flots. Heaven's Gate figurait en tête sur la liste des mondes menacés d'invasion. Après avoir franchi la porte des officiels au terminal de Plaine des Boues, je contemplais, depuis les hauts de Rifkin, la magnifique cité qui démentait son nom. La nuit était bien avancée et les engins automatiques de nettoyage des rues étaient à l'œuvre. On entendait le bourdonnement des brosses et des sonics sur les pavés. Il y avait cependant pas mal de monde dehors. De longues files de personnes attendaient, silencieuses, devant le terminex public des Hauts de Rifkin et des files encore plus longues étaient visibles aux alentours du portail de l'esplanade. La police locale était présente avec ses uniformes noirs anti-impact. Si des unités de la force faisaient route de toute urgence pour renforcer les défenses de ce secteur, elles demeuraient pour le moment totalement invisibles. Les gens qui faisaient la queue n'étaient pas des citoyens ordinaires de Rifkin, et les riches propriétaires du quartier avaient certainement leurs terminaux d'Istrans privés. Ceux qui attendaient là ressemblaient plutôt à des travailleurs des chantiers d'aménagement ouverts à quelques kilomètres de là, après les grands parcs et les forêts de fougères. Il n'y avait pas de signe de panique, et les conversations étaient rares. Tout le monde attendait avec la patience stoïque des familles qui avancent pas à pas vers le guichet d'un parc d'attractions. Rares étaient ceux qui avaient avec eux plus qu'une valise ou un sac de voyage. Avons-nous atteint un degré de sérénité tel que nous soyons devenus capables de nous comporter dignement devant une invasion ? Me demandai-je. Heaven's Gate se trouvait à 13 heures de leur H. Je réglai mon persoc sur l'assemblée de la Pangermie.
Si nous sommes capables de triompher de cette menace, les mondes que nous aimons pourront demeurer libres, et le Retz tout entier entrera dans un avenir radieux. Mais si nous échouons, c'est toute l'hégémonie, tout l'univers que nous avons connu et aimé, qui sombrera dans l'abîme d'un nouvel âge noir rendu infiniment pénible et sinistre par les lumières d'une science pervertie et des libertés humaines annihilées. Unissons donc nos forces et notre courage dans l'accomplissement de notre devoir. Et soyons persuadés que si l'hégémonie humaine, ses protectorats et alliés devaient encore exister dans 10 000 ans, l'humanité dirait « Le meilleur de nous-mêmes, c'est alors que nous l'avons donné ».
Quelque part, dans le silence de la cité d'où montaient d'agréables senteurs de nuit, une fusillade éclata. Ce fut d'abord le crépitement des fusils à fléchettes, puis le grondement sourd des étourdisseurs anti-émeutes, puis le grésillement des lasers. Des cris s'élevèrent. La foule de l'esplanade se bouscula vers les Terminex. La police anti-émeute surgit du parc voisin, braquant de puissants projecteurs halogènes, et ordonna aux gens, au moyen de mégaphones, de reformer les queues ou de se disperser. Il y eut un moment d'hésitation, puis la foule reflua d'avant en arrière et d'arrière en avant comme une méduse prise dans des courants capricieux. Mais lorsque les coups de feu devinrent plus forts et plus rapprochés, il y eut un nouveau mouvement de masse en avant vers les plateformes. Les flics anti-émeutes tirèrent des gaz lacrymogènes et des grenades à nausées. Entre la foule et le Terminex, des champs de confinement mauve apparurent. Une formation de VEM militaires et de glisseurs de la sécurité survola alors la ville à basse altitude, ses projecteurs en action. L'un des rayons lumineux me captura et ne me lâcha pas jusqu'à ce que mon persoc se mette à clignoter en réponse aux demandes de renseignements. Puis il se mit à pleuvoir. Autant pour la sérénité. La police avait investi le Terminex public des Hauts de Rifkin et affluait vers la porte privée que j'avais utilisée pour venir ici. Je décidai qu'il était temps d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Il y avait des commandos de la force de garde dans tous les couloirs de la maison du gouvernement, vérifiant toutes les arrivées d'Istrans, bien que cette porte fût probablement l'une des plus difficiles d'accès de tout le Retz. Je dus franchir 3 postes de contrôle avant de pouvoir passer dans l'aile résidentielle où se trouvaient mes appartements. Soudain, des gardes firent irruption dans le corridor principal pour le vider et en garder tous les accès. Gladstone apparut, accompagné de tout un cortège de conseillers, de collaborateurs et de chefs militaires. Chose étonnante, elle m'aperçut, arrêta tout le monde sur sa lancée et me parla à travers une haie de marine en tenue de combat.
« Comment avez-vous trouvé mon discours ?» Ashperson.
Très bien, répliquai-je, particulièrement émouvant, quoiqu'un peu emprunté à Winston Churchill, si je ne me trompe. Elle sourit et haussa faiblement les épaules.
S'il faut plagier, autant plagier les grands maîtres oubliés. Quelles nouvelles du front rapportez-vous ?
Demanda-t-elle soudain plus grave. La réalité est à peine en train de commencer à pénétrer les esprits. Attendez-vous à un vent de panique.
C'est la chose à laquelle je m'attends toujours. Et nos pèlerins ?
Je fus pris au dépourvu. Les pèlerins ? Je n'ai fait aucun rêve. La force du courant de son escorte et de l'actualité pressante l'avait fait dériver peu à peu vers l'autre bout du couloir.
« Vous n'avez peut-être plus besoin de dormir pour faire ses rêves !»
me cria-t-elle.
« Essayez !»
Je la regardais s'éloigner. Puis on me laissa gagner mes appartements. J'ouvris la porte et me détournai, écœuré de moi-même. La peur et la hantise des horreurs qui étaient en train de s'abattre sur nous me poussaient à me réfugier au plus profond de moi-même. Je n'aspirais qu'à m'étendre sur ce lit, fuyant même le sommeil, les couvertures remontées jusqu'au menton, versant une larme pour le Retz, une autre pour l'enfant Rachel et une autre pour moi-même. Je repris le corridor en sens inverse, quittai le bâtiment résidentiel et me rendis dans le parc en suivant le dédale des allées de gravier. Des dizaines de mini-drones bourdonnaient comme des guêpes. L'un d'eux s'attacha à mes pas tandis que je traversais la roseraie pour arriver à un endroit où un chemin creux sinuait à travers une serre de plantes tropicales étouffantes. Une fois parvenu dans la section de l'ancienne terre, près du pont, je m'assis sur le banc de pierre où Gladstone et moi avions bavardé un moment. « Vous n'avez peut-être plus besoin de dormir pour faire ses rêves. Essayez. » Je m'assis en travers du banc, les jambes repliées, les genoux sous le menton, les doigts sur les tempes, et je fermais les yeux.